Donc nous allons passer la parole maintenant à Thierry Fouillette. Vous vous souvenez peut-être, pour certains d'entre vous, qu'en 2009, aux journées ou à la journée d'études de l'ADBGV à Strasbourg, Jean-Luc Gauthier-Jantès avait dit « Bonne nouvelle pour les bibliothécaires, c'est la crise, le public va revenir ». Donc je ne sais pas ce qu'il en est, et je pense que Thierry, par l'étude qu'il en a faite, et en particulier par le travail qui avait été fait avec un groupe d'élèves de l'ENSIB au congrès de l'ABF de l'an dernier, va pouvoir nous donner quelques éléments de réponse. Merci.
Merci à vous pour votre invitation à l'ENSIB, à la BPI. Et je vais en effet vous faire part du travail que j'ai mené autour de la crise vue de la bibliothèque, avec un exposé aujourd'hui intitulé « En temps de crise, quels usages des bibliothèques, quelles attentes des citoyens ?» Pour commencer, je vais d'abord vous donner la parole à un usager de la BPI.
Vous écoutez France Culture.
C'est une émission de France Culture.
13h30, en effet, les pieds sur terre, c'est reparti pour une nouvelle année, meilleure que la précédente, mais moins bonne que la suivante.
En 2013.
Rentrée oblige, nous partons à la BPI du Centre Pompidou, une bibli d'un genre un peu particulier.
Voilà. Donc, ça va durer quelques minutes. Je vous demanderai de bien vous concentrer, de noter des éléments. J'essaierai d'exploiter au maximum ce témoignage, mais peut-être que je vais louper des éléments qui seront importants, et auquel cas, on pourra les discuter.
Acteurs étonnants aujourd'hui, après avoir fait sagement la queue comme tout le monde, en tout cas jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un reportage de Marion Guénard, réalisé par Alexandra Malkin.
Là, on est sur la terrasse, en fait. C'est là où viennent les gens pour fumer leurs cigarettes, en fait, tout simplement.
Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Nordine. J'ai 35 ans.
Vous venez souvent à la bibliothèque ?
Oui, je viens quasiment tous les jours. Hein. Ça m'occupe aussi un petit peu en attendant de reprendre le travail, quoi. Au niveau informatique, en fait, je suis programmateur et comme j'ai travaillé dans le commerce pendant un an, j'ai un petit peu abandonné l'informatique. Donc, comme c'est un domaine qui évolue, je me remets à niveau, en fait, tout simplement. Je traverse une période difficile, on va dire, et j'ai retrouvé un emploi. Enfin, là, je suis au chômage. Hein, et, j'ai retrouvé un emploi, là, il y a 2-3 semaines que je dois entamer début juillet dans ma ville d'origine, qui est Lille. Donc je vais retourner sur l'île à début juillet. En fait, là, ça fait 6 mois que je galère. Une fois que mes économies étaient finies, c'était la galère, quoi. Comme je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire la manche, c'est pareil. Et je suis pas un voleur non plus. Donc je préfère rester dehors plutôt que de demander aux gens ou des choses comme ça. J'ai du mal à demander de l'aide, en fait. En gros, voilà. Moi, je m'en suis sorti tout seul. Ça fait 2 ans que je suis à Paris. Et je suis tout seul actuellement, je vis seul. Ouais. Et j'ai toute ma famille dans le Nord, tous mes amis dans le Nord, donc là, ouais, je suis tout seul pour le moment à Paris.
Et vous vivez comment à Paris alors ?
Un peu à la débrouille. Quand je travaillais, en fait, j'avais un appartement de fonction. Donc quand j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu l'appartement avec. Donc je me débrouille pour le moment à droite, à gauche, quoi. C'est pas évident tous les jours, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Mais maintenant que j'ai l'objectif d'avoir trouvé l'emploi et l'appartement qui va avec, on va dire que ça va mieux, quoi. Moralement, ça va mieux. Maintenant, il ne me reste plus beaucoup à tenir, donc ça va, quoi. Faut pas baisser les bras, en fait, c'est tout.
Et venir à la bibliothèque, ça signifie quoi pour vous ? Est-ce que c'est un endroit où vous vous sentez bien, par exemple ?
Oui, comme je suis quelqu'un qui aime bien... J'aime bien tout ce qui est lecture et tout. Je lis beaucoup de livres policiers, en fait. Le fait de venir à la bibliothèque aussi, c'est ça qui est bien, c'est que je découvre des choses sur lesquelles je me serais pas dirigé forcément tout seul. Et je suis quelqu'un qui aime bien aussi toujours apprendre, donc c'est un endroit où je me sens bien. Je trouve que c'est reposant, en fait. Puis ça me fait penser à autre chose, en fait. Quand je travaillais, je venais déjà de temps en temps dans des bibliothèques ou des choses comme ça, mais c'était plus pour prendre des livres, rentrer chez moi et les lire chez moi. Mais le fait de rester sur place, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, mais j'estime pas que c'est une deuxième maison pour autant. C'est vraiment un échappatoire, c'est tout. Le fait de s'évader dans des livres, le fait de s'auto-former, on va dire, ça m'occupe l'esprit. Quand mon esprit est occupé, ça me repose. J'ai besoin d'avoir une activité, sinon ça va pas, quoi. Donc plutôt que de balader dehors, je préfère venir ici et lire des livres et continuer ma formation, en fait, tout simplement. Puis j'ai pas mal de personnes aussi avec qui je discute, qui sont super sympas, que j'ai connues ici. Donc voilà, ça m'aide aussi pas mal. Hein. On fait des belles rencontres ici quand même aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a des personnes, honnêtement, qui vont me manquer. Hein. Par contre, honnêtement, quitter Paris, ça me fait pas mal du tout. Hein. Enfin, venant du Nord, on a une mentalité assez particulière et c'est vrai que la mentalité parisienne, elle est assez difficile ici. Hein. Les gens sont trop stressés, en fait, ici, je trouve. C'est pour ça aussi que je suis beaucoup tout seul ici.
Vous avez vos affaires avec vous, là ?
Non, mes affaires sont dans un centre social, en fait. Un centre qui s'appelle la Mie de Pain, dans le 18e.
Depuis combien de temps, la bibliothèque, là ?
Ça fait 6 mois. C'est vrai qu'à la bibliothèque, il n'y a pas de regard bizarre. Ouais, c'est vrai que ça nous change de dehors, ouais, bien sûr. C'est vrai qu'à la bibliothèque, on se sent mieux quand même. Ouais. De ce côté-là, on se sent mieux.
Je suis obligé d'arrêter. C'est une émission vraiment... importante. On peut saluer le talent de Marion Guénard pour l'entretien et de France Culture, évidemment, pour la qualité du montage. Vous l'avez peut-être entendu, c'est quand même un reportage qui est monté. Il manque quelques questions et on suppose des relances. Mais bon, les propos sont bien sûr authentiques. Donc, de cet entretien, j'ai retenu le plan pour l'intervention d'aujourd'hui. Puisque les choses importantes sont dites. La bibliothèque, oui, est encore un lieu en temps de crise et qui plus est un lieu de sociabilité. C'est un lieu où on trouve des collections, y compris les choses auxquelles on n'aurait pas pensé en y venant. C'est un lieu où je me suis remis à niveau. J'ai rattrapé, vous avez compris, 1 an de chômage, 1 an en dehors du monde du travail. Donc les compétences dans le métier de programmateur évoluent et je me suis remis à niveau. J'ai raccroché. Et puis, c'est vrai que le regard porté sur les usagers à la bibliothèque, il n'est pas bizarre. C'est un lieu d'autonomie, un lieu où on reprend confiance. Alors, je me suis rendu compte que j'avais loupé pas mal de diapos, parce que je voulais vous présenter le contexte de la crise, mais on ne va pas épiloguer sur la crise. La crise, c'est un sujet qui est toujours dans l'actualité. Ce soir, à 19h, dans le 3e arrondissement, il y a une conférence qui s'intitule « L'Europe est-elle sortie de la crise ?» Donc, il y a encore des gens, vous voyez, qui se posent des questions. L'Europe au placard, l'Europe au rencard, les économistes à votre rencontre, emparez-vous de l'économie. Donc c'est quelque chose de très intéressant, c'est fait par Terra Nova avec Christian Chavagneux, qui est quelqu'un qui est quand même assez accessible pour les questions économiques. Donc l'Europe est-elle encore en sortie de la crise ? La crise dont on parle, elle a commencé au troisième trimestre 2007. L'événement qui fait date, c'est la faillite de Lehman Brothers. C'était le 15 septembre 2008. Donc, si vous voulez retenir une date, c'est 15 septembre 2008. Donc, cette crise financière, elle a duré plusieurs mois, presque 1 an. C'est la seule banque qui a fait faillite. Toutes les autres ont été renflouées par les États, y compris en France. Donc, les pertes dû à ces produits financiers dont vous avez entendu parler, les hedge funds et compagnie, ont été rattrapés depuis... C'était à l'été 2013. À l'été 2013, on a rattrapé tout le retard, enfin dans les bourses, les traders ont récupéré tout ce qu'ils avaient perdu. Donc cette crise financière, elle est terminée. Des mécanismes de précaution ont été mis en place pour éviter qu'elle ne se reproduise, mais en fait, ce sont des mécanismes assez souple. Et d'autres produits ont pris la relève et d'autres produits sont aussi opaques aujourd'hui. Et quand on lit la presse économique, on présuppose encore de nombreux crashs du même style avec des produits tout aussi volatiles. Alors pourquoi en 2013 serait-on encore en crise, puisque je viens de dire que c'était une crise financière qui était derrière nous? Parce que nous, en 2008, le chômage continue à baisser en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le début du quinquennat et le président était très content de dire qu'en Europe, le chômage n'augmentait pas en France. Courant 2008-2009, ça, c'est quand même, la courbe s'est bien sûr inversée. Et donc là, on n'a plus dit que le chômage n'était pas un problème en France. Il est quand même à 10% aujourd'hui. Et à ce problème du chômage, qui est un problème conjoncturel, évidemment, qui date depuis les années 70 en réalité, donc on ne peut pas évidemment épiloguer ou ergoter dessus, c'est ajouté la crise de la dette. Puisque au bout d'un moment, les agences de notation se sont inquiétées de savoir si les États pouvaient continuer à rembourser leurs dettes et si les obligations qui sont émises sur les marchés sont vraiment fiables. Et donc, des pays perdent leur bonne notation, se voient dans l'incapacité de pouvoir emprunter. Et donc, à la crise financière a succédé la crise de la dette. Et celle-ci, on y est toujours. C'est toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le président et le Premier ministre doivent défendre pour le 15 avril auprès de la Commission européenne, un report des conditions de remboursement de la dette, etc. C'est les fameux critères de Maastricht qui s'appliquent depuis tout ce temps. Donc la crise, à partir des années 70, on a parlé de crise, nous rappelle Florence Omna. À partir des années 90, on a parlé de fermeture, soyons concrets. Et elle fait parler une dame qu'elle a rencontrée dans son enquête dans l'année 2009, justement, une dame de Ouistreham. Et cette dame parle de son mari qui a perdu son emploi dans une entreprise. Et elle dit, cette dame, à propos de son mari, lui, la crise, il la voit. Et elle se reprend tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? On entend dire que tout ça a été déclenché volontairement pour permettre aux entreprises de virer comme elles veulent. Et si ça se trouve, on se fait encore avoir et tout est faux. Et puis là, c'est un petit peu long, donc je ne vais pas vous faire mal aux yeux, mais c'est une dame de Châtellerault dans le courrier des lecteurs, dans la Nouvelle République, en 2009, qui dit qu'elle ne sait pas si son maire est un bon maire, parce qu'en fait, elle ne sait pas comment est-ce qu'on définit un bon maire, mais je suis sûr qu'il n'est pas le maire qui convient quand notre ville traverse une telle crise. Il n'a pas l'air de se rendre compte du drame des familles quand les emplois disparaissent. Dans 6 mois, je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir, et ça, il ne me donne pas l'impression de s'en rendre compte. Nous avons été privés d'animation populaire gratuite à Noël, plus de fêtes de la ville, plus de fêtes de la musique programmée, plus de fêtes des sports, abandon du projet de médiathèque, un festival de la musique classique et un de jazz maintenu concernant une élite. Eh bien, en matière de distraction, je suis très déçu. Je suis une vieille dame de 75 ans qui continue pourtant à s'intéresser à la vie politique, surtout locale. Donc là, la crise, on est d'accord. Si vous voulez comprendre comment ça s'est déclenché en 2007-2008, c'est ce film que vous pouvez regarder, qui décrit très bien la faillite de Lehman et les frissons chez Goldman Sachs, plus précisément, qui, elle, n'a pas fait faillite. Et si vous voulez, ce que ce film-là ne dit pas, en revanche, c'est que le système opaque de la finance dont je parlais tout à l'heure, il ne fonctionne que parce qu'il y a des paradis fiscaux qui sont assez peu, enfin qui sont étudiés, mais dont on parle beaucoup moins en proportion, mais qui sont bien ciblés dans ce film que je vous recommande tout autant. Je ne sais pas si vous connaissez la réplique de Yolande Moreau dans ce film, et si on butait le patron. C'est vraiment la solution qui s'impose au début du film et on va aller jusqu'aux îles anglo-normandes pour voir qui est au bout du problème. Bref, ça c'était le speech de Nordine, mon plan. Et donc je vais recommencer à déplier mes 4 points. La bibliothèque en tant que lieu, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de collection, la formation et quel regard porter sur les usagers. Cette bibliothèque qui est encore un lieu, elle s'étudie dans les statistiques. Donc là, ce sont des graphiques que j'ai extraits de la dernière synthèse du ministère de la Culture concernant les bibliothèques municipales, la fameuse enquête dont vient de parler Cécile. Donc y a pas de vrai décrochage. Vous voyez, le point de référence, c'est 2007, qui était plutôt une bonne année, si on compare à maintenant. Avec une fréquentation qui augmente assez régulièrement. On n'observe pas vraiment de décrochage, ni en 2008, crise financière, ni en 2010, crise de la dette, tout au plus un petit plateau. En termes de nombre d'inscrits, c'est l'érosion habituelle. On perd quelques points chaque année. Donc là, je ne peux pas vraiment caractériser de crise à ce niveau-là. Le taux d'emprunt, vous le voyez sur la période c'est pareil, hein, c'est une courbe qui est assez lisse. On distingue les bibliothèques en vert des points d'accès aux livres qui sont des bibliothèques de plus petit niveau dans les réseaux des bibliothèques départementales. Sur cette courbe-là, on voit une courbe qui se caractérise en bas avec les dépenses d'investissement qui, elles, diminuent. C'est la partie budgétaire du budget des collectivités. Donc là, dans un budget de collectivité qui doit, contrairement au budget de l'État, qui doit être à l'équilibre, il est évident qu'on fait des choix et que l'investissement décroche. Par ailleurs, les dépenses totales sont la ligne rouge, hein, relativement stable. Pour les acquisitions, c'est le trait gris. Pas de panique là non plus. Donc en gros, on travaille à moyen constant, quoi. Donc ça, tout ça, ça cache évidemment la hausse du coût de la ville, le gel du point des fonctionnaires et tout un tas de données. Alors, dans cette petite présentation, je vais me baser sur quatre matériaux principaux. Le témoignage de Nordine, qu'on vient d'entendre. Une enquête qui a été réalisée en mai 2013 à Lyon sur les trottoirs de la ville en style micro-trottoir, des entretiens avec des habitants ou des passants, et puis dans les halls de bibliothèque et puis dans le hall de la gare SNCF par des élèves de ma promo, hein, des élèves conservateurs que je vais citer. Il y avait Isabelle Bastien-Duplex qui travaille à la BPI, qui doit être quelque part, voilà. On s'est salué tout à l'heure, Isabelle, Marie Baudière, Colline Blampin, Vincent Calvé, Morgane Dezard, Clotilde Périgaud, Jean-Baptiste Westman, des élèves de la filière territoriale et de la filière de l'État, soit dit en passant, et nous avons présenté ce travail au congrès de la BF 2013, dont le thème était la fabrique du citoyen, qui était un beau congrès. Et puis, dans ce micro-trottoir, nous avons interrogé 125 personnes, transcrit tous les entretiens. Il y avait autant d'hommes que de femmes, 74 usagers, 51 non-usagers, un petit peu plus d'usagers que de non-usagers. Et la question de départ, c'était au fond pour vous aujourd'hui, ça sert encore à quelque chose, une bibliothèque. Donc on voulait interroger les attentes envers la bibliothèque. Et puis ensuite, dans la conversation, on déroulait quelques thèmes. Ce que sont vos recherches en matière de santé, vos recherches d'informations générales, de connaissances, pour l'aide aux devoirs, par exemple. Est-ce que la bibliothèque est importante pour vos enfants, pour les accompagner dans leur découverte du monde? Est-ce que la bibliothèque a quelque chose à voir avec votre travail ou votre recherche de travail? Ensuite, est-ce que la bibliothèque est un lieu où vous rencontrez d'autres personnes, dans l'idée du troisième lieu, etc. Et puis, est-ce que la bibliothèque est un lieu où vous forgez votre esprit citoyen, la vie civique? Est-ce que c'est un lieu où vous vous renseignez pour faire vos démarches ou sur vos droits? Est-ce que c'est un lieu où on peut se renseigner sur les débats de société? Voilà, donc toutes ces occurrences ont été déroulées avec chacune des 125 personnes, plus ou moins évidemment selon les entretiens, pour essayer de faire remonter des attentes. Eh bien, la réponse à toutes ces questions, c'est que la bibliothèque, elle est attendue déjà en termes de livres, comme dans une enquête américaine. J'avais annoncé quatre matériaux, j'en ai cité deux, donc Nordine, l'enquête ABF, une étude de l'OCLC de 2010 sur la perception des bibliothèques par les usagers en temps de crise. Là, ils ont fait vraiment fort. Et sur une autre enquête pan-européenne, à laquelle a participé Christophe Evans pour la BPI, avec TNS et la fondation Bill and Melinda Gates. Donc c'est une enquête de 2013 sur une enquête destinée à évaluer les perceptions des utilisateurs des bibliothèques à l'égard des avantages liés aux technologies de l'information et de la communication dans les bibliothèques publiques. C'est-à-dire, est-ce que la bibliothèque est un lieu où j'ai intérêt à utiliser l'informatique, Internet? Voilà, donc ça, c'est ces quatre matériaux qui permettent de se faire une idée de l'état des bibliothèques en temps de crise. Les bibliothèques sont un lieu où on trouve des livres. C'est comme ça. À Lyon, sur les trottoirs de Lyon, c'est aussi vrai. On nous a cité le mot livre 187 fois. Ensuite, on nous a parlé de travail, travailler, faire une recherche pour le travail 78 fois. On nous a parlé d'Internet 68 fois. Tout ça, c'est de manière relativement spontanée, hein. je vous l'ai expliqué. Ensuite, on nous a bien expliqué que c'était un lieu de silence et un lieu calme, qu'il convenait de ne pas trop perturber ce calme. Et les documents multimédia arrivent en dernier. Enfin, quand même, c'est pas rien. Voilà. Pour vous, ça, c'est juste pour vous donner une idée de du lexique de la bibliothèque dans la tête de nos concitoyens. Donc, la question de l'attente sociale en tant que telle, elle est assez faible, hormis le travail dont je vais reparler. En revanche, si un message qui est passé dans beaucoup, beaucoup d'entretiens, 23 fois est apparu le mot « gratuité », le coût, payer, ne pas payer, je préfère acheter mes livres, j'y vais parce que je ne veux pas acheter mes livres. Donc, si vous voulez, la donnée économique, elle est arrivée, plus que la donnée sociale. Ça, c'est vraiment très important. Et les usagers et non-usagers, je vous ai fait le compte tout à l'heure, insistent sur ce point. Ce sont les questions économiques qui ont fait irruption dans ce micro-trottoir. Et on a bien compris que la bibliothèque était un lieu gratuit. Et puis, je voulais vous dire aussi que sur les 125 personnes, toutes connaissaient le mot bibliothèque, toutes comprenaient de quoi on parlait quand on parlait de bibliothèque. Une fois ou deux, il y a peut-être une confusion avec la FNAC. On s'en est rendu compte au cours de la conversation, mais c'est marginal et c'était assez peu perceptible. Voilà. Par rapport à l'enquête de ce matin où on parlait des librairistes, et je voulais un élément à mettre en comparaison. Donc, je vais citer aussi une autre enquête de la Commission européenne sur la participation des Européens à la culture. Donc, la Commission a fait une fiche par pays. Et en fait, on se rend compte qu'en France, depuis 2007, donc là, c'est pareil, c'est 2007 à 2012 sans doute, les Français lisent davantage de livres, vu depuis la Commission européenne. Hein, donc, ils ont dû avoir un protocole d'enquête particulier. La fréquentation des bibliothèques est stable en France alors qu'elle diminue en Europe. Et les habitudes culturelles des Français sont encore fortes. Donc le moteur culturel, des pratiques culturelles en France, il n'est pas cassé. C'est ça qu'on peut retenir. Il n'est pas arrêté. On ne peut pas dire que... c'était un petit peu les courbes de tout à l'heure, là, du ministère de la Culture. Il n'y a vraiment pas lieu de s'alarmer pour l'instant. Voilà. Je vais continuer. Avec la deuxième partie sur la formation. C'est la troisième partie, mais c'est pas grave. Donc Nordine nous a dit, je suis programmateur et comme j'ai travaillé dans le commerce pendant un an, j'avais un peu abandonné l'informatique. Donc comme c'est un domaine qui évolue, je me remets à niveau, en fait, tout simplement. Et il disait plus bas, faut pas baisser les bras, en fait, c'est tout. Donc je pense que la bibliothèque, c'est important qu'elle soit là au moment où certains ne baissent pas les bras. Qu'est-ce qu'on propose à quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Au lieu de penser souvent chez nous à quoi bon un rayon exhaustif avec des livres qui coûtent cher dans des domaines variés qui seront empruntés par une ou deux personnes. Voilà, ça c'est une question vue depuis le budget de la bibliothèque. Mais pour Nordine, c'est je ne vais pas baisser les bras. Et puis cette personne qu'on a rencontrée à Lyon, une fois j'avais un problème, comment j'écris une lettre de motivation, j'ai cherché là-bas, j'ai emprunté un livre, et il m'a bien aidé pour l'écrire. Et du coup, vous terminez une formation, vous serez bientôt en recherche d'emploi. Non, quand tu recherches du travail, tu vas direct à Pôle emploi. Mais à la bibliothèque, tu peux trouver des gens qui te donnent envie de toujours continuer à aller vers ton but, à continuer ton chemin. Voilà, ça c'est quand même, je pense, assez significatif des compétences des bibliothécaires. On est quand même des gens qui sommes capables d'aider quelqu'un, un concitoyen, à trouver son chemin. Et non seulement à lui donner un emploi pour qu'il cesse sa période de chômage à tout prix. Et dans les problématiques sociales que j'exclus un petit peu tout à l'heure des centres d'intérêt des Lyonnais quand on leur parlait des bibliothèques, c'est la problématique de la formation et de l'insertion professionnelle, c'est la seule occurrence qui ressortait. C'est la seule chose qui les intéressait vraiment. Et là, j'ai toute une page de témoignages de gens qui disaient « Ah oui, alors parlons, ah oui, ça c'est vraiment intéressant. » Ça pourrait être intéressant. Même moi, je n'ai pas été confronté longtemps à la recherche d'emploi. C'est une dame de 30 ans qui nous dit ça. Mais franchement, ça pourrait être un développement intéressant. une autre dame de 35 ans qui nous dit pour une reconversion, oui, ça peut être utile. Elle nous dit c'est quand même plus agréable une bibliothèque que Pôle emploi ou un autre organisme de formation. Et cette dame que j'ai rencontrée dans le hall d'une bibliothèque au coin presse, pour la formation, oui, je me suis offert à un moment une formation, mais j'ai abandonné parce que c'était trop cher. Mais je continue avec la bibliothèque, toute seule. Tout ça, vous voyez, ce sont quand même des, plus que des signaux, c'est une pression qui est mise sur nous, une attente. Et puis quelqu'un d'autre qui n'était pas usager, de 55 ans, qui nous dit « Regardez la cuisine sur marmiton.org, on trouve tout, il y a même les avis des clients. La même chose en bibliothèque, ce serait sympa. » Donc Cécile, c'est un peu comme ton histoire de parking, on ne voit pas trop où ça peut mener, mais voilà. Donc la pression est là sur la bibliothèque, on attend quelque chose de nous. Et avec l'enquête pan-européenne dont je parlais tout à l'heure, hein, Bill et Melinda Gates, 7% des utilisateurs des ordinateurs en bibliothèque ont recours à l'ordinateur pour des fins professionnelles. Dans les gens qui fréquentent vos ordinateurs dans les bibliothèques, 7% en Europe, 7% l'utilisent pour leur travail à des fins professionnelles ou de recherche d'emploi. 20% des utilisateurs d'ordinateurs dans nos bibliothèques s'en servent pour chercher des informations sur leur secteur d'activité. Tout ce domaine, il est défriché en France dans un petit livre de la boîte à outils aux presses de l'ENSIB, un petit ouvrage dirigé par Georges Perrin qui s'intitule « Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi, les atouts des bibliothèques ». C'est un titre qui n'est pas du tout usurpé. Donc ce titre est à mettre en parallèle d'un mémoire de l'ENSIB qui est en accès libre gratuitement de Johan Bourion qui dit un petit peu la même chose que, enfin, de manière... sur des domaines plus précis, mais vous pourrez retrouver des éléments communs entre la boîte à outils et le mémoire de Johan Bourion. Donc la bibliothèque, on l'a compris, c'est un lieu alternatif à Pôle emploi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. En particulier, nous disent Pogam et Giorgetti dans leur étude sur Des pauvres à la bibliothèque, une enquête au Centre Pompidou. C'est paru au PUF en 2013. Donc, tout ce qu'on vient de dire, là, c'est vrai particulièrement, d'après Pogam et Giorgetti, pour les gens qui sont à la marge de la zone de fragilité. Ils distinguent 4 catégories de pauvres, sans que ce soit discriminatoire ou péjoratif, c'est juste pour comprendre en termes sociologiques. Et entre la première catégorie et la deuxième, les gens qui sont à la marge, qui sont au-delà, en gros, de la première année, ça, c'est Dominique Schnapper qui le dit, ça reste vrai, au-delà d'un an de chômage, vous commencez à décrocher. Autant au niveau des habitudes de vie que du réseau, que de la compréhension de la recherche d'emploi. Donc, c'est dans la première année que ça se joue, en gros. Et donc, l'avantage, d'après Giorgetti et Pogam, de la bibliothèque pour les personnes concernées, l'avantage à la bibliothèque, c'est qu'elles ne sont pas identifiées par leur statut de chômeur. C'est-à-dire qu'elles échappent à la bibliothèque au poids du stigmate chômeur. À part dans certaines bibliothèques au moment des inscriptions. Je l'ai vécu et exercé moi-même. Ça peut être une épreuve pour quelqu'un de parler de ça, de le dire, et on n'est pas forcément très adroit dans la manière de l'aborder, donc soyons attentifs à ce point. Et c'est ce que disent aussi Pogam et Giorgetti. Nous n'ajoutons pas de stigmate à nos actions. C'est-à-dire que s'il nous vient l'idée de nouer des partenariats avec Pôle emploi, pour que nos horaires d'ouverture soient complémentaires. Ça, c'est dans la boîte à outils de Georges Perrin. Il y a une expérience à Bordeaux qui prouve que c'est possible. Donc, faisons-le, soyons partenaires, mais n'en faisons pas des caisses, quoi. Ça doit rester discret, ça doit rester soft. La bibliothèque est un intervenant social doux, hein, nous disent les gens qu'on a interrogés. Enfin, on peut le transcrire comme ça. Et il faut qu'on reste dans le soft, une certaine neutralité. Dans l'enquête du ministère de la Culture là, qui vient de sortir, hein, 5% des bibliothèques coopèrent avec des services de l'emploi. C'est un chiffre stable et qui n'augmente pas, qui ne diminue pas. 13% des bibliothèques coopèrent avec des services sociaux. Ce chiffre diminue, on était à 15% l'année d'avant. Donc les bibliothèques ne sont pas très aisées pour coopérer avec les services de l'emploi et avec les services sociaux. Je poursuis ça. Oui, ça c'était l'enquête de l'OCLC. Ils font des beaux graphiques. Je vous conseille de regarder cette enquête de l'OCLC 2010 et qui montre que les usagers de bibliothèques américaines, quand ils sont impactés par la crise économique, en bleu, ils sont 81% à utiliser la bibliothèque, alors que quand ils ne sont pas impactés par la crise économique, en orange, ils sont 68% à utiliser la bibliothèque. Donc, être impacté par la crise aux États-Unis, c'est un facteur qui incite à fréquenter davantage la bibliothèque. Je n'ai pas pu montrer de corrélation, différence en France à ce niveau-là, parce que j'ai pas mené l'enquête dans ce sens-là. Donc c'est un point, là c'est une information que je peux pas, à laquelle je ne peux pas apporter de contrepoint. Le Nordine nous disait, j'ai du mal à demander de l'aide, en fait. Et donc moi je m'en suis sorti tout seul à la bibliothèque. Et c'est vrai qu'à la bibliothèque, il n'y a pas de regard bizarre. Il ne précise pas si c'est du personnel ou des usagers, mais je pense que c'est les deux. Et c'est vrai que ça nous change de dehors, bien sûr, ou quand tu es pauvre, au bout d'un moment, ça se voit. C'est vrai qu'à la bibliothèque, on se sent mieux quand même de ce côté-là. On se sent mieux. Alors, est-ce que les bibliothèques sont légitimes à travailler avec les services, avec nos partenaires, des collectivités, des services sociaux ? Formellement, il n'y a rien qui nous empêche ni qui nous incite, mais enfin, dans le Code de l'action sociale et des familles, il y a un article qui précise bien aux partenaires, aux acteurs de la vie sociale, que la réduction des inégalités de la culture fait partie de leur mission. Donc c'est une mission qui est énorme, qui tient dans une ligne d'un texte de loi, et pour lesquels, je pense, on est une aide tout à fait la bienvenue pour nos collègues de la mission locale, de nos partenaires de proximité. Alors, si on veut aller plus en détail dans le... Je vais revenir sur une diapo blanche. Dans le domaine de l'aide à la recherche d'emploi, comment faire ? Georges Perrin, dans sa boîte à outils, décrit trois axes. La question du travail en tant que tel, la question de la formation et la question de l'entrepreneuriat, de l'auto-entrepreneuriat, comment aider à entreprendre. En précisant que les personnes qui sont accueillies au titre de leur recherche d'emploi constituent dans les bibliothèques, ça c'est dans les constats relevés par Georges Perrin, un public nouveau pour la bibliothèque. Et de ce constat découle aussi la nécessité de renforcer les fonctions d'accueil de la bibliothèque sur les questions de l'emploi, de l'employabilité et de l'auto-formation ou de la formation. Donc, monter en compétence dans l'équipe de la bibliothèque sur ces terrains, sur ces sujets, sans en faire des tonnes, hein, comme on le disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas de se spécialiser, de stigmatiser une partie du public, de forcément... discriminer une partie de l'offre documentaire dans la bibliothèque, mais être présent sur le terrain de la formation à la bibliothèque. Tout ça, ça passe par l'accès à Internet. Ça, c'est l'enquête pan-européenne qui le montre. Donc, ne pas baisser les bras sur le nombre d'ordinateurs consultables en libre accès à la bibliothèque, reliés à Internet. Ce n'est pas du temps perdu. Renoncer à la formation de base, à la navigation sur Internet. Et puis, ne pas renoncer au lieu calme qu'est la bibliothèque, hein, comme je le disais tout à l'heure, puisque la bibliothèque, c'est quand même le lieu de la construction de soi, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, et il est quand même attendu, même si la bibliothèque n'est plus un sanctuaire depuis longtemps, à ce que ce soit un lieu où on puisse réfléchir au moins par endroit, quoi. Ce qu'on remarquait dans l'enquête à Lyon, c'est que la révolution numérique, finalement, qui est peut-être la vraie révolution qui impacte vraiment les bibliothèques plus que la crise économique, en fait, ne déstabilise pas le rapport des usagers à leur bibliothèque. Les gens ont bien compris qu'à la bibliothèque, il y avait les livres et Internet. Et donc, notre légitimité à intervenir dans ce domaine, elle est totale. La gratuité des services est un marqueur fort de la bibliothèque. Ça, je l'ai répété. Et puis, il y a une dame qui me dit, tous les gens qui viennent, en fait, ils sont très contents de votre bibliothèque. Elle avait 70 ans, elle était au coin presse, dans le hall de la bibliothèque, qui était vraiment au niveau des portes coulissantes. Tous les gens sont très contents, on se le dit entre nous. Ça mériterait d'être plus connu. Autour de moi, les gens, ils n'y pensent pas, ça ne leur vient pas à l'idée, et ils n'osent pas entrer. Donc, vous voyez, une espèce d'injonction paradoxale là, qui nous est faite. Rassurez-vous, tout va bien. Et puis en même temps, cette porte coulissante, on hésite à la franchir. Donc ce qui compte le plus pour moi, après avoir fait le tour de cette... Enfin, tenté de faire le tour de la crise, c'était de déjà la mettre à distance. Gardons notre sang-froid. Et ce qui est important, c'est ce que relève Galbraith, qui avait étudié la crise de 1929 et qui, dans sa préface, fait le parallèle entre la crise de 1929 et la crise de 2008. Et il nous dit que la difficulté, cette fois, le problème, ce n'est pas tant celui de la difficulté immédiate de la crise. Le pays n'est pas affamé, dans sa majorité. On n'a pas vu des files. La monnaie ne s'est pas effondrée, comme dans les années 30. Donc, vous voyez, on n'a pas connu de problème à ce point. Ce qui impacte, en revanche, la société, c'est la ruine des projets d'avenir, que ce soit dans les études des jeunes, dans la carrière professionnelle ou dans l'avenir de nos retraites. Et cela jette un voile sombre sur notre temps. Et le rôle de la bibliothèque, c'est de lever ce voile, ou au moins de le mettre en... de l'éclairer. Alors, le rôle social des bibliothèques, il avait été étudié par deux conservateurs dans les années passées. C'est Fabrice Chambon qui avait étudié le rôle social des bibliothèques. Donc Chambon, qui dirige maintenant les bibliothèques de Montreuil, si je ne me trompe. Et puis Vincent Chevalier, qui avait étudié les publics sans-abri en bibliothèque publique. Ça, c'était pour donner deux prolongements dans la bibliothèque numérique de l'ENSIB. Et puis relever les propos d'un sociologue de la pauvreté à un autre, Jean-Michel Charbonnel, qui disait « Toutes les politiques qui visent à réduire la pauvreté doivent être conçues pour le plus grand nombre, tout en améliorant prioritairement la situation des plus défavorisés. » Et ça, j'aime bien cette double dimension. C'est la conjonction entre ces deux objectifs, hein, faire une politique pour le plus grand nombre tout en priorisant les plus défavorisés, qui permet de simultanément de susciter l'acceptation de leur financement en période de tension budgétaire. C'est pour tout le monde et en même temps, c'est pour les plus défavorisés. Et ça permet d'éviter les effets pervers aussi de la stigmatisation dont j'ai parlé, de tout dispositif qu'on pourrait mettre en place et qui serait trop ciblé envers les personnes défavorisées. Donc ça, c'était un constat de Jean-Michel Charbonnel un constat sur les politiques sociales en général, mais que j'avais envie de retenir pour les politiques culturelles, pour nos projets d'établissement. Le faire pour tous, en ayant à l'esprit qu'on va prioriser les plus défavorisés. Et puis, je vais donner un contrepoint qui m'avait été soufflé par Raphaël Batz, qui travaille à l'ENSIB, au service des relations internationales, et qui m'avait dit... c'est bien de montrer que la bibliothèque elle est utile en temps de crise, mais si elle n'était utile qu'en temps de crise, au fond, que serait son utilité une fois que la crise est passée? Et puis, il ne s'agit pas, me disait-elle aussi, de rejouer le coup du bibliothécaire et ses pauvres. Je crois qu'on n'en est plus là. Donc voilà. Donc cela, c'est marqué conclusion. Je vais vérifier que je n'ai rien oublié de ce que je voulais dire. Voilà. Alors toute l'enquête, là, elle est dans l'enquête qu'on a faite à Lyon, elle est dans les annexes de mon mémoire, qui est dans la bibliothèque de l'ENSIB. Donc les témoignages, les transcriptions, vous pouvez les utiliser pour vos propres études, évidemment. Ah oui, bah si, ce que je voulais vous montrer avant de conclure, c'était ça. Quelques livres qui m'avaient été utiles dans ce petit travail, avec une image qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur Facebook, une image de 1934. Voulons-nous sortir de la crise? Alors, voilà, si on veut se rapprocher des citoyens, avant de parler des usagers. Moi, il y a trois ouvrages qui m'ont semblé vraiment incontournables. C'est le Quai d'Ouistreham de Florence Aubenas, qui est vraiment un document exceptionnel, nous dit elle, et c'est vrai. Le témoignage qui vient de sortir d'un ouvrier de la banlieue lyonnaise, Anthony, qui est parti dans une collection remarquable dirigée par Pierre Rosanvallon, qui s'intitule « Raconter la vie » et qui, ce sont des petits ouvrages souples à 6 ou 5 euros. Hein, qui sont, il y en a un de Annie Ernaux qui vient de sortir sur une espèce de sociologie du supermarché et qui est vraiment remarquable. J'avais dit que je vous le dirais. Annie Ernaux relève le phénomène des caisses automatiques dans les supermarchés. Ça m'a fait penser à la RFID, ça m'a fait penser à la manière dont on nous traite quand on va à la poste maintenant, où on nous impose de passer par les machines, quand bien même il n'y aurait personne à faire la queue à l'accueil. Donc ça, pour moi, c'est tout simplement révoltant. Mais bon, c'est comme ça. Donc le rôle des machines, il est bien analysé par Annie Ernaux dans son ouvrage qui s'intitule « Regarde les lumières, mon amour », je crois. Et puis sur la RFID, il y a aussi des choses dans l'ouvrage du moniteur qui s'appelle, c'est un livre qui est assez cher, qui s'intitule « Construire ou rénover sa bibliothèque », où il est bien précisé que la RFID, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas forcément une solution qui s'impose dans toutes les bibliothèques. Ça, c'est dit. Et puis, Toto 30 ans, c'est un petit témoignage d'un monsieur, un jeune homme qui est bibliothécaire de son état et qui est tout à fait éclairant sur la jeunesse d'aujourd'hui, qui va avec le témoignage d'Anthony, un petit peu, si vous voulez voir l'esprit de galère que peut constituer la recherche d'emploi dans le monde d'aujourd'hui. C'est assez... assez direct. Sur le monde du travail en général et la pauvreté, j'ai retenu un cycle de documentaires qui sont passés sur France Télévisions, qui sont disponibles dans les bibliothèques. La mise à mort du travail, qui explique bien toutes les implications des désordres économiques dans le monde du travail et toutes les dérives managériales qui sont enseignées dans certaines écoles. Et qui déstructure et aliène les travailleurs, tout simplement. Se battre, c'est sorti il y a peu de temps au cinéma. C'est un petit peu moins fort, mais les témoignages sont intéressants. Sont intéressants, eux aussi, et la parole des gens qui est recueillie est tout à fait remarquable. Le dossier qui était sorti dans Le Monde à cette occasion était presque plus intéressant que le film. Si vous n'avez rien compris à la crise, vous pouvez vous référer à un ouvrage qui s'intitule « Béaba de l'économie contemporaine », ou à ce film, Inside Job, qui explique bien comment les produits financiers ont ruiné Wall Street et les bourses européennes, puisque finalement, tout le monde avait acheté ces produits, sans le savoir. Si vous voulez comprendre comment s'est déroulée la crise en France, Les faits sont têtus est l'ouvrage le plus accessible et le plus précis à la fois. Il contient de nombreux schémas et graphiques en couleur qui sont... Bon, c'est assez épais et assez dense, mais c'est le plus accessible, avec celui qui est au milieu de Jean-Marie Monnier, qui est moins épais et moins cher, et puis celui de droite qui résume le tout. Eli Cohen explique en fait que tout est dans le titre, qu'on est en train de changer de modèle plus que de sombrer dans la crise. Si vous voulez étudier l'aspect territorial de la crise dans votre région, je vous conseille celui du milieu, Le mystère français, puisqu'il y a toute une filiation géographique et démographique à la réflexion qui décrit bien la crise. La crise qui vient de Laurent Davezy fait une typologie des régions en fonction de leur perte d'attractivité et parle de fracture territoriale. C'est un petit peu orienté, mais c'est pas mal. Le Capital au XXIe siècle, c'est une œuvre majeure que je n'ai fait qu'effleurer, mais qui est vraiment intéressante. Si vous voulez savoir si votre commune a été infectée par les emprunts toxiques, vous pouvez consulter la carte de Libération et les articles de localtis.info. Alors, ils sont payants au bout d'un moment, mais si vous vous abonnez ici à la newsletter, vous les avez gratuits le premier jour. Et donc, l'actu des emprunts toxiques, c'est dans Localtis que je l'ai trouvé. Donc, en France, on s'en sort plutôt bien au niveau des emprunts toxiques. Le Parlement a audité pas mal de spécialistes et les lois vont dans le sens de soutenir les collectivités. Mais il a fallu que les collectivités s'associent pour hausser le ton un petit peu. Donc, dans votre collectivité, est-ce qu'on peut parler des emprunts toxiques? Est-ce qu'on est concerné? Est-ce que le personnel de votre collectivité est informé sur le sujet? Pour moi, ce n'est pas une question anodine. Si vous voulez comprendre pourquoi cette crise au début du XXIe siècle. Ces deux ouvrages font bien la synthèse et expliquent qu'évidemment, cette crise, c'est un changement de civilisation et que la déprise agricole, l'exode rural des années de l'après-guerre ont bien plus de conséquences que la crise de 2007, évidemment, et que l'informatisation que les bibliothèques ont traversée allègrement dans les années 70 et 80 et la numérisation aujourd'hui que les bibliothèques traversent tout à fait honorablement sont les vrais changements de société. Donc ils ont chacun leur point de vue, il ne s'agit pas d'adopter leur point de vue bêtement, mais les éléments sont vraiment tous... C'est assez schématique comme approche et c'est ça qui est intéressant. Les données du ministère de la Culture sont de mieux en mieux présentées avec des graphiques et à la fin de chacune d'entre elles, une rétrospective 2007-2013 ou 2007-2012, qui sont... 2011 et 2012, qui permettent de lisser les données. Si vous voulez entrer dans la crise dans les bibliothèques, c'est celui qui est au milieu qui est peut-être le plus directement le plus proche des publics. Mais je vous ai dit tout à l'heure, favoriser l'insertion professionnelle, c'est un ouvrage vraiment pratique. La boîte à outils, c'est vraiment du pratique. Hein. Ce sont la plupart du temps des études de cas. Et à la fin, il y a un mémento. Si vous n'avez même pas le temps de lire le livre, vous avez le mémento à la fin. Et pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? C'est une autre approche sociologique tout à fait intéressante qui éclaire aussi notre époque. Si vous voulez sortir de la problématique française, je vous conseille cet ouvrage sur Lisbonne, puisque quand on parle de crise et culture, on parle toujours de l'effet Bilbao, avec ce musée flamboyant qui a complètement fait renaître la ville de ses cendres. Mais il y a d'autres modèles que Bilbao, derrière lequel on a essayé de courir avec Metz et Lens. Et c'est le modèle lisboète qui est intéressant. Un modèle qui ne coûte rien, à moyen constant, et qui est beaucoup moins spectaculaire. Et puis ce petit ouvrage de poche de 6 euros, là aussi, sur les politiques culturelles et l'immigration en France, qui éclaire l'aspect social de notre époque, avec une partie sur le monde, sur la période de la crise. Et puis ça, c'est un ouvrage que j'ai découvert la semaine dernière, et je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt, parce que, en fait, c'est le sujet, je pense, le plus important, qui devrait nous intéresser plutôt que la crise et les bibliothèques. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'information qui circule, aussi bien sur Internet que dans la bibliothèque ? Qu'en est-il de notre projet encyclopédique et du rôle républicain et démocratique de la bibliothèque ? Gérald Bronner n'est pas complètement pessimiste, heureusement, mais il nous démontre qu'il y a vraiment du travail en matière de vie républicaine en lien avec la problématique des savoirs et de la connaissance. C'est un petit peu, l'ultime cible de tout notre travail. Donc là, ce sont les ça, vous trouverez ça dans mon mémoire à la limite, les références des études qui peuvent vous éclairer à la fois aux États-Unis en haut et en Europe en bas. Voilà. J'arrête là.
Merci pour cet exposé. C'est juste un petit témoignage américain de la ville de Pittsburgh qui avait été très touchée par la crise en 2008-2009 et qui, contrairement aux collectivités territoriales françaises, la ville était en quasi-faillite. Et donc, il se devait de fermer les bibliothèques, en tout cas fermer des services, etc. Et ce qu'ont fait les bibliothécaires, elles ont convaincu le maire de faire un référendum. Elles ont calculé combien ça coûterait pour garder les mêmes services et combien ça coûterait d'augmenter les impôts. Et ils ont fait un référendum. Et à 83%, les gens ont voté oui. on paye plus d'impôts pour garder les bibliothèques. Voilà.
Oui, alors j'ai fait un petit... Pittsburgh, là, je ne l'ai pas cité, mais j'ai fait un petit saut dans les, au Royaume-Uni, aux États-Unis, pour voir un petit peu comment ça se passait. Au Royaume-Uni, il y a une ville assez importante, je crois que c'était dans l'ordre de 10 000 habitants, qui a décidé de fermer la bibliothèque. Et les gens ont dit non, on ne va pas fermer la bibliothèque. Bon, bah d'accord, faites-le avec des bénévoles. Non, on ne veut pas le faire avec des bénévoles. Ah bon, bah alors si vous ne voulez pas le faire avec des bénévoles, c'est-à-dire que vous ne tenez pas avec, à votre bibliothèque. Donc il y a un dialogue assez cynique qui s'est engagé comme ça entre cet élu, c'est public, hein, c'était dans le Guardian, et les usagers des bibliothèques qui, dans plusieurs villes, subsistent grâce à des bénévoles. Ça avait été présenté au congrès de l'ABF par Yann Anstice, A-N-S-T-I-C-E, qui milite un petit peu contre cette dérive hein, de transformer les services publics en associations, de fait. Et c'est un phénomène qui est toujours en cours. À San Diego, aux États-Unis, où le problème des emprunts... comment ça s'appelait ? Les prêts à subprimes qui avaient été contractés par les Américains et qui ne peuvent plus rembourser. Donc la banque récupère la maison qui était hypothéquée, mais la banque ne peut plus revendre la maison, donc la banque elle se retrouve elle aussi en difficulté, d'où la crise. Et les gens, de toute façon, ils se retrouvent à la rue avec leurs affaires, des familles. Et dans cette bibliothèque, on a monté des ateliers avec avocats, aide juridique, comment vous sortir de vos emprunts à subprimes, etc. Donc, dans des contextes bien particuliers, la bibliothèque s'est rendue utile de manière très directe. Et puis, toujours aux États-Unis, c'est à New York. Là, c'était dans un autre domaine, le domaine de l'ouragan Katrina, où la bibliothèque a joué un rôle prépondérant dans la gestion de crise, tout simplement, hein, au même titre que les pompiers, pour venir en aide aux populations. En Grèce, les fonctionnaires ne sont pas remplacés au moment du départ à la retraite. Certains sont même licenciés. Leur salaire diminue. On supprime les 13e et 14e mois, qui font partie de la rémunération principale, en réalité. Et donc, les bibliothécaires doivent prendre un deuxième métier s'ils veulent continuer à exercer leur métier de bibliothécaire décemment. Les gens viennent se chauffer à la bibliothèque parce que chez eux, le chauffage est coupé. Tout ça, ce sont des témoignages recueillis de manière tout à fait sérieuse, quoi.
Bien, ben, merci Thierry pour cette contribution. Et merci à vous d'être venus. J'en profite pour vous dire que les contributions seront disponibles sous forme audio, c'est bien ça, sur le site de la bibliothèque, avec les fichiers PowerPoint quand il y en a, sur le site de la bibliothèque publique d'information, que les mémoires des élèves conservateurs qui maintenant sont en poste sont disponibles gratuitement à la bibliothèque numérique de l'école. Celui de Thierry, il doit l'être ou il va oui, l'être, incessamment sous peu. Donc vous avez de la matière, il vous a donné de la bibliographie abondante, donc vous aurez là aussi dans vos bibliothèques municipales de quoi piocher. Et moi, je me permettrai juste d'ajouter, alors, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, hein, de vous conseiller... Chemin des morts de François Sureau, Gallimard, 7,50 €. C'est un petit bijou. Ça se lit en une demi-heure, donc vous avez à peine le temps de prendre le métro. Il faut en lire 4 dans le TGV. Donc c'est vraiment très, très bien. François Sureau est conseiller d'État et il a fait en 80 pages ce qu'il n'a heureusement pas fait en 200. Voilà. Merci.